Bonsoir Annabelle.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. La France en état d'alerte, commémorée ce matin les attentats du 13 novembre 2015, un hommage aux victimes du Bataclan, sans rassemblement, en petit comité et visage masqué. Retour sur la cérémonie avec Pierre Neveu. Et dans ce moment de recueillement, l'Europe solidaire, dans une déclaration conjointe, les 27 pays de l'Union se sont dit déterminés à renforcer la sécurité des frontières extérieures. Une législation européenne pour le retrait dans l'heure des contenus à caractère terroriste sur Internet devrait bientôt entrer en vigueur. Face aux incertitudes liées à la crise sanitaire, l'ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, a recommandé à Jean Castex de reporter les élections régionales et départementales à juin 2021. Recommandation suivie par le Premier ministre qu'il proposera au vote du Parlement. Et faudra-t-il annuler les fêtes de Noël et Nouvel An pour cause d'épidémie? On y va tout droit, une perspective qui ne réjouit ni les commerçants ni les Français, vous l'entendrez dans ce journal. Manifestations et chaînes humaines dans les rues de Minsk, les Biélorusses ont protesté aujourd'hui dans le silence après la mort d'un jeune artiste interpellé par la police. 5 ans après, les autorités ont rendu hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, les plus meurtriers commis sur le sol français et en pleine recrudescence de la menace terroriste dans le pays. De l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre à l'attaque dans la basilique de Nice, la succession d'attaques au cours des dernières semaines a rappelé que la vague djihadiste qui a frappé la France il y a 5 ans n'était pas totalement terminée, même si elle a changé de forme. Bonsoir Pierre Neveu.
Bonsoir.
Alors ce retour en force de la menace, récemment relevée à son niveau d'alerte maximale, donnait une dimension particulière aux traditionnelles commémorations ce matin.
Oui, en ce 13 novembre, le ministre de l'Intérieur le rappelle, le risque terroriste aujourd'hui est très élevé. Et Gérald Darmanin de préciser la double menace, exogène, comme en 2015 avec des terroristes structurés en commando, envoyés pour commettre des attentats sur le sol français. Et puis il y a une menace endogène, plus forte selon le ministre, comme cela s'est manifesté, vous l'avez dit, à Nice, à Conflans-Sainte-Honorine, et même devant les locaux, les anciens locaux de Charlie Hebdo, avec le passage à l'acte d'individus isolés, radicalisés, qui n'étaient pas connus des services de police, ni même fichés à l'antiterrorisme. Une mutation de la menace terroriste soulignée ce matin par les patrons du renseignement français. Ces 3 attentats en quelques semaines place le ministre Darmanin en première ligne sur les questions de sécurité intérieure, de contrôle aux frontières, d'asile et d'immigration. Pressé de prendre des mesures d'exception par l'opposition, l'exécutif a décidé de répondre avec fermeté. D'abord, en accélérant les demandes d'expulsion des étrangers radicalisés. En ce sens, Gérald Darmanin a récemment effectué des déplacements au Maroc, en Tunisie, en Algérie et même en Russie. Et puis, il y a une volonté politique de s'attaquer à l'islam radical. C'est l'objet du futur projet de loi sur le séparatisme qui sera présenté en Conseil des ministres début décembre, avec comme priorité la lutte contre la propagande terroriste et les discours de haine sur Internet. C'était d'ailleurs ce que portait la députée Laetitia Avia dans sa proposition de loi, texte qui, rappelons-le, a été retoqué par le Conseil constitutionnel.
Merci Pierre Neveu. Une vague de terrorisme qui touche également l'Europe. Après les attaques en Autriche et 3 jours après un mini-sommet sur ce sujet à Paris, les 27 ministres de l'Intérieur de l'Union, réunis en visioconférence aujourd'hui, ont signé une déclaration commune. Il s'agit de renforcer la lutte en Europe contre le terrorisme. Les outils existent pour mieux protéger nos frontières extérieures, disent-ils. Les explications à Bruxelles d'Angélique Bouin.
Nous ne voulons pas combattre une religion, mais lutter contre tous les extrémistes violents et radicaux, précisent les 27 dans leur déclaration. Ils s'engagent à mieux appliquer leur législation pour lutter par exemple contre les armes à feu et traquer le financement du terrorisme. Leurs autorités doivent aussi savoir qui entre dans l'espace Schengen et qui y voyage, est-il écrit. Or, trop souvent, on ne sait pas, a regretté lors du point de presse Ylva Johansson, la commissaire européenne en charge des affaires intérieures.
Dans une étude de Frontex l'an dernier, il est ressorti que 22% des personnes qui sont entrées dans l'espace n'ont pas été enregistrées dans le système d'information Schengen. Et donc, très clairement, il y a une marge de progression.
Les 27 vont donc renforcer leurs frontières extérieures et mieux organiser avec les pays tiers les expulsions des personnes qui représentent une menace, tout en appelant à une meilleure intégration des migrants qui font, disent-ils, un effort actif pour s'intégrer. Ils insistent également sur l'importance l'importance de lutter contre les contenus terroristes en ligne. Leur objectif est de s'accorder au plus vite sur un nouvel outil qui permettrait de signaler ou suspendre en moins d'une heure des contenus repérés sur la toile. Les négociations en cours sur ce sujet à Bruxelles avec le Parlement pourraient aboutir en début de semaine prochaine.
Et c'est dans ce contexte que la France a revendiqué ce matin la mort d'un haut responsable djihadiste au Mali, cadre important lié à Al-Qaïda. Il a été neutralisé par la force Barkhane, a annoncé Florence Parly, la ministre des Armées. Reporter les élections régionales et départementales de mars à fin juin serait une option raisonnable au regard de la situation sanitaire et politique. Voilà ce que préconise le rapport commandé par l'exécutif et remis ce matin par l'ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré. Le Premier ministre Jean Castex a aussitôt prévenu qu'il allait engager les démarches visant à reporter ces élections. Les détails avec vous, Antoine Marette.
Comment désamorcer une polémique venue en particulier de la droite en faisant appel à un sage venu de ce camp. Jean-Louis Debray, ancien président du Conseil constitutionnel, a donc rendu sa copie sur le report des régionales et des départementales. Chez nos confrères de France Inter, il a d'abord posé le contexte.
Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui ne rend pas possible le scrutin au mois de mars. Pour une raison juridique, la campagne électorale a commencé. Or, comment mène-t-on une campagne électorale lorsqu'il y a confinement ou couvre-feu?
Les élections sont donc impossibles en mars, il faut les déplacer.
Le problème n'est pas l'organisation du scrutin, c'est la campagne électorale. Et donc, en reportant au mois de juin, on peut prendre des mesures pour faciliter la campagne électorale. Dans le rapport, je parle de l'éventualité de campagne audiovisuel, avoir une nouvelle forme de campagne électorale.
Quant au vote par correspondance, Jean-Louis Debré y est opposé. Selon lui, il y a trop peu de temps entre les deux tours, seulement une semaine. Un délai qui rend très difficile l'organisation du vote par correspondance.
Et les commerces cherchent désespérément la parade pour sauver les fêtes de Noël. Malgré la perspective d'une réouverture le 1er décembre, pas sûr que ça suffise à sauver les meubles, si l'on peut dire. D'autant que le Black Friday, journée de promotion importante importée des États-Unis, aura lieu le 27 novembre. Les voix s'élèvent donc pour demander une réouverture dès le vendredi 27 novembre, Laura Dulieu.
Rouvrir les commerces dès le vendredi 27 novembre, soit 4 jours avant la date fixée par le gouvernement, cela permettrait de donner un peu d'air aux commerçants. Mais ce serait aussi stratégique pour tout le monde, insiste Johan Petiot de l'Alliance du Commerce.
C'est important d'abord parce que c'est un week-end où on sait que le Black Friday aura probablement lieu. Et donc il faut que les magasins physiques aussi fassent leur activité ce week-end-là, c'est important. Ça permettra aussi d'accueillir les clients sur 4 week-ends avant Noël au lieu de 3, ce qui permettra de fluidifier la fréquentation dans les magasins. Et ça, c'est important aussi sur le plan sanitaire.
Le Black Friday, qui normalement ne concerne pas vraiment les petits commerces, eh bien cette année, certains s'y raccrochent et demandent également une réouverture dès le 27 novembre. Francis Palombier, président de la Confédération des commerçants de France, s'y résout.
Les commerces qui voudront faire un Black Friday le feront. On a admis l'idée que ça se fasse, mais à condition que nous puissions ouvrir et le même jour, sans un jour de décalage.
Et oui, car le Black Friday dépend des grandes entreprises privées. L'État ne peut rien faire pour le repousser ou l'annuler. De son côté, Amazon France déclare ne pas avoir encore décidé du report ou non de cette journée.
Et Jean Castex, dans sa conférence de presse hier soir, a même laissé comprendre donc qu'il faudra sans doute se passer de fêtes de Noël et Nouvel An. Bref, difficile de se réjouir ou d'envisager un peu de légèreté. On est bien parti pour remiser cotillon et langue de belle-mère cette année. Pour beaucoup d'entre nous, le temps est suspendu, comme l'explique Sandra Ohibian, chef du service société du CREDOC, le centre de recherche pour l'étude de l'observation des conditions de vie. Elle le dit à Cécilia Arbonne.
Il y a une forme de vie au ralenti qui s'est mise en place, en fait, où la population accepte des restrictions de liberté qui sont quand même très fortes, sans forcément, en tout cas pour l'instant, se rebeller ou les mettre en cause dans des grandes proportions. Toute projection dans l'avenir est ralentie, freinée. Les Français sont encore dans l'attente et ne prennent pas de décision, en fait, pour Noël aujourd'hui. On est dans une sorte de temps suspendu, en fait. sachant que ce temps s'effiloche, s'allonge, et donc ce retour à la normale, on ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu, puisqu'on ne sait pas encore bien si on va pouvoir se déplacer d'une région à l'autre, si on sera finalement encore confiné. C'est sûr que l'intérieur aujourd'hui, le domicile fait office de refuge, comme il l'a quasiment jamais fait. C'est probable, oui, qu'on achète des décorations de Noël, qu'on essaye un petit peu d'embellir son intérieur, mais ça ne peut pas être complètement déconnecté du contexte dans lequel on est, baigné de mots comme les morts, les malades, les tragédies, enfin, donc c'est pas un contexte qui est très propice à la fête.
Non, pas très propice. Bannir les poignées de main et la bise pour se dire bonjour, oublier les accolades, ne plus se prendre dans les bras, bref, éviter les contacts, ne plus se toucher. Cela fait des mois que tous nos gestes, toutes nos habitudes ont dû changer, se modifier avec l'apparition de l'épidémie. Dans quel état physique et psychologique va-t-on bien pouvoir sortir de cette crise sanitaire? C'est un dossier signé Maïwenn Bordon.
Le toucher est vital pour notre bien-être psychologique et ce, dès notre plus jeune âge. C'est ce qu'a démontré notamment le psychiatre anglais John Bowlby dans ses travaux. Comme l'explique Fabienne Martin-Juchat, elle est chercheuse à l'Université Grenoble-Alpes et spécialiste en anthropologie du corps.
John Bowlby travaillait sur les bébés, en fait, et les bébés qui étaient pas correctement portés ou qui n'avaient pas suffisamment de contact physique avec leur maman. Eh bien, cette absence de toucher physique générait des troubles de l'apprentissage et beaucoup d'angoisse. Donc c'est sûr que ceux qui se trouvent réellement isolés sans contact physique, eh bien, j'espère qu'ils ont une capacité forte de compensation.
Le pire scénario pourrait être le développement de l'aptophobie, la peur de toucher et d'être touché, selon Bernard Andrieux, philosophe du corps.
On est vraiment dans une peur viscérale qu'on ne peut pas contrôler. Jusqu'au vaccin, de toute façon, et même avec le vaccin, il y aura toujours cette peur, finalement, d'être atteint par l'autre.
Après la fin des mesures sanitaires, nos corps entreront dans une zone de turbulence pendant quelques temps. C'est l'analyse de plusieurs chercheurs en sociologie. Mais selon eux, il n'y aura pas de séquelles durables sur nos corps. La poignée de main sera le premier geste à revenir. La bise, elle, déjà contestée avant la crise sanitaire, est vouée à se raréfier.
Le toucher face au Covid-19, nos corps plongés dans une zone de turbulence après la crise sanitaire. Un dossier donc à retrouver, complet sur franceculture.fr. Qui se trouve derrière L214? C'est le dossier de France Culture ce vendredi. La cellule investigation s'est penchée sur les soutiens de cette association de défense des animaux. L214, vous la connaissez sûrement pour ses vidéos chocs qui dénoncent les conditions d'élevage ou d'abattage des animaux. Mais on connaît peut-être moins ceux qui la financent. Bonsoir Maxime Fayol.
Bonjour.
Alors, au-delà de ce combat légitime contre la violence animale, vous vous êtes intéressé notamment au fonctionnement de l'association et à son budget.
Oui, en examinant les comptes 2019 de L214, on constate que plus de 90% de son budget proviennent des adhérents via les dons, les cotisations ou encore la boutique en ligne de l'ONG. Mais 8% du budget viennent d'un gros don de la part d'une fondation américaine, l'Open Philanthropy Project, qui lui a signé un chèque d'un peu plus d'1 million d'euros en 2017. Alors cette fondation, elle a notamment été créée par le cofondateur de Facebook, Dustin Moskovitz, ainsi que d'autres géants du numérique, avec un objectif très précis, estime le journaliste spécialiste des questions d'alimentation, Gilles Luneau.
L'Open Philanthropy Project, il sert d'une part à soutenir des start-up travaillant sur la nourriture végane, et puis aussi il finance la recherche, le développement et la quasiment mise en industrie aujourd'hui de viande à partir de cultures de cellules souches. Et pourquoi ils veulent faire de la viande à partir de cellules souches et pourquoi ils veulent industrialiser au maximum? C'est parce qu'ils veulent s'emparer du marché mondial de l'alimentation, tout simplement.
Et pour parvenir à convaincre l'opinion publique du bien fondé d'une viande sans élevage, une viande qui réglerait à la fois le problème de la souffrance animale et celui des émissions de gaz à effet de serre, cette fondation cherche des relais, d'où l'intérêt de donner un petit coup de pouce à L214, estime la sociologue Jocelyne Porcher.
À leur idée, les consommateurs ne sont pas assez motivés pour l'agriculture cellulaire parce qu'ils ne savent pas comment sont élevés les animaux. Donc il faut leur montrer des images pourries d'un côté, dire regardez comme c'est affreux l'élevage, c'est la violence envers les animaux et c'est l'abattoir. Voilà, multiplier les images que fait L214, abrutir les gens sur les réseaux sociaux avec des images en boucle, ça participe à construire la demande.
L'objectif de ces milliardaires serait donc de fabriquer et de vendre une viande sans élevage. Mais c'est faisable, ça?
Oui, c'est faisable grâce aux cellules souches. L'idée, c'est de faire une viande sans animaux et de nourrir la planète à partir de quelques bêtes seulement. Et de nombreux laboratoires y travaillent déjà, explique le politologue expert de l'alimentation Paul Ariès.
La fausse viande cellulaire, elle suppose toujours au départ un donneur de cellules. Mais ensuite, un seul échantillon va permettre de produire jusqu'à 20 000 tonnes de viande. La start-up Mozami, donc des principaux acteurs dans ce domaine-là, nous dit que 150 vaches seraient suffisantes pour satisfaire la demande actuelle de viande.
Et si vous pensez qu'il s'agit d'un futur lointain, eh bien sachez que les premiers steaks de viande cellulaire existent déjà. Et L214 ne nie pas d'ailleurs qu'elle regarde cette évolution d'un bon œil, même si Sébastien Arsac, son cofondateur, affirme ne pas faire de prosélytisme.
On ne fait pas la promotion de la viande cultivée, absolument pas. On n'a aucune campagne dirigée vers ce truc-là. Mais quand on défend les animaux et qu'il y a des scientifiques qui travaillent sur des alternatives qui permettent d'éviter d'envoyer des milliards d'animaux à l'abattoir chaque année, je comprends que des associations de défense animale puissent regarder cette alternative d'un bon œil.
Derrière L214, la viande in vitro en embuscade, c'est votre enquête à retrouver sur franceculture.fr. Merci Maxime Fayol. Sur la scène international, alors que la plupart des pays ont félicité Joe Biden à l'annonce de sa victoire samedi dernier par les chaînes de télévision américaines, la Chine et la Russie ont tardé à le faire et étonnamment le Mexique également a mis un petit peu de temps pour réagir. Le président López Obrador a même surpris ses concitoyens en refusant de reconnaître la victoire de Joe Biden, alors que les Mexicains se montrent globalement soulagés du départ de Donald Trump de la Maison-Blanche suite à 4 années de tension. Leur président affirme lui qu'il a entretenu une bonne relation avec le républicain. Emmanuel Steele nous raconte de Mexico en correspondance.
C'est une étrange loyauté envers Donald Trump ou une simple prudence que manifeste Andrés Manuel López Obrador. Les Mexicains n'ont pas fini d'élucider les raisons qui poussent leur président à ne pas féliciter le vainqueur des élections dans le pays voisin. L'intéressé, lui, affirme qu'il respecte simplement le processus électoral.
Comment nosotros nos vamos a convertir en juez? Tenemos que respetar a los ciudadanos de otros países. Pero además,
comment pourrions-nous agir comme des juges? Nous devons respecter les citoyens d'un pays étranger, surtout qu'il s'agit d'une élection dans un pays où il y a 38 millions de Mexicains. Leurs votes sont répartis, ils n'ont pas tous voté pour le même parti. Ce serait irresponsable de nous prononcer pour l'un ou l'autre des candidats. Ce n'est pas notre rôle.
Por uno por otro, no nos corresponde.
Les 4 dernières années ont été marquées par un chantage incessant de Trump sur le Mexique, qu'il s'agisse du mur frontalier, des questions migratoires ou commerciales. Pourtant, d'aucuns disent que López Obrador souhaitait sa réélection, craignant que Biden et les démocrates ne s'immiscent dans les politiques internes du Mexique, en matière de droits de l'homme et d'environnement surtout. L'équipe de Biden a proposé un appel téléphonique entre les deux hommes, mais López Obrador a décliné, jugeant qu'il était trop tôt. Même si ce faux pas, de l'avis des spécialistes, ne devrait pas avoir de conséquences désastreuses sur la relation entre les voisins, les Mexicains garderont le goût amer de cette amitié insolite entre leur président et Donald Trump.
Minsk, la capitale de la Biélorussie, de nouveau le théâtre de manifestations ce vendredi, au lendemain de la mort d'un jeune artiste arrêté par la police. Le ministère de l'Intérieur dément toute implication dans son décès survenu à l'hôpital, mais nul ne le croit. L'Union européenne dénonce une répression violente des autorités biélorusses contre leur propre peuple. Les manifestants sont eux venus par centaines lui rendre hommage à l'appel de l'opposante en exil Svetlana Tikhanovskaya. C'est un récit de Marie-Pierre Véraud avec sur place Théodore Katim.
Des fleurs, des bougies, des slogans aussi sur cette place emblématique de l'opposition Pereman Square, la place du changement. C'est là que Roman Bondarenko, 31 ans, artiste peintre, a été brutalement arrêté par les forces de sécurité mercredi soir, alors qu'il tentait de s'interposer quand des individus ont entrepris d'arracher les rubans rouges et blancs, symbole de l'opposition au dictateur biélorusse Loukachenko. Roman est mort le lendemain de lésions cérébrales. Macha le connaissait un peu. Il était doué pour le dessin, dit-elle, et chaque fois que l'on organisait quelque chose pour les enfants, il venait leur apprendre à tenir un crayon. Il était gentil. Ce n'était pas un provocateur, je tiens à le dire, c'était un homme pacifique. Sur un papier, un enfant a écrit « Roman, reviens, je veux que tu m'apprennes à dessiner ». L'émotion est très vive, tristesse, colère. Le portrait de Roman brandi dans des rassemblements près d'universités, d'usines, d'hôpitaux Certains sont en noir, signe de deuil, sous les klaxons de soutien des automobilistes.
Nous sommes déterminés à continuer. Nous ne sommes pas des soldats, ni des combattants professionnels, ou des révolutionnaires, ni des amoureux de la révolution. Si nous le faisons, c'est parce que nous devons le faire.
Un nouveau martyr, un héros de la nation pour l'opposante en exil Tsikhanouskaya. C'est peut-être l'étincelle qui ranimera la flamme des manifestations contre le pouvoir qui se déroule désormais chaque dimanche. C'est du moins ce que veut croire Sergueï.
Cela peut être un tournant. On pourrait voir beaucoup plus de monde ce dimanche. Mais il se pourrait aussi que l'on soit peu nombreux, car tout le monde a très peur. Personne ne veut mourir. Et on voit à quel point il est facile de mourir ici.
La foule scande des slogans à son pays contre la police. Tous ces témoignages ont été recueillis discrètement et les noms ont été changés.
Côté météo, demain, le temps sera nuageux sur l'ensemble du pays. Les températures sont toujours très douces pour la saison, avec 15, 18 degrés au nord et 18 à 22 degrés au sud.